France Culture.
Je me rappelle d'un autre bouquin qui m'a marqué, mais je...
France Culture.
Vous voulez me donner des indices et je cherche le titre.
Le Book Club.
C'est pas du tout un monologue où elle est...
Non, c'est vraiment une histoire, c'est trois bouquins, c'est l'histoire d'un gamin dans une famille hyper pauvre.
Dans la bibliothèque de Maud Le Pladec.
Mais c'est hyper bien.
Et si on demande à Google, par exemple ?
Marie Richeux.
Ça va pas me revenir, mais quand ça va me revenir, je vais vous envoyer un SMS parce que ça va me rester...
Pour qui vous voit danser sur les plus grandes scènes mondiales ou dans l'espace public depuis une petite vingtaine d'années, qu'il s'agisse de vos propres pièces créées à partir de 2010 ou des partitions élaborées pour et avec d'autres chorégraphes, on sait que l'enjeu de créer un nouveau langage du corps, du son et de l'espace est grand pour vous, Maud Le Pladec. Se rajoute à cet enjeu, encore plus clairement ces derniers temps, celui de le transmettre. On a pu le voir dans votre pièce Legacy qui s'écrivait autour de la relation entre une jeune enfant prodige du crump et des danseurs plus expérimentés. On a pu le voir dans les chorégraphies que vous avez signées pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024 à Paris. Elle s'adressait au monde entier, ni plus ni moins. Et on le voit dans les structures que vous dirigez, Orléans récemment et le Ballet de Lorraine depuis janvier 2025. L'invention d'un langage nouveau et les questions que pose sa transmission sont aussi au cœur des textes que vous avez choisi de partager avec nous. Le tout pétri par un désir combatif de conversation égalitaire entre les vivants, humains et non-humains. Merci Maud Le Pladec d'avoir accepté l'invitation du Book Club à déballer votre bibliothèque pour nous aujourd'hui et bienvenue. Un peu chez vous, un peu chez nous du coup.
C'est ça, exactement.
C'est ça. Est-ce que vous êtes en bonne compagnie quand vous êtes en compagnie des livres ?
Ouais, j'aime beaucoup. J'aimerais être un peu plus en leur compagnie d'ailleurs, parce qu'un studio de danse, il n'y a pas de bouquin a priori, mais c'est vrai que toute première étape de création, je la passe avec un bloc-notes, un stylo, bouquin, et j'écris, je dessine. Je fais beaucoup de contes, je m'inspire beaucoup. Enfin, je pars des mots, en fait, beaucoup, beaucoup.
Donc, depuis le début de votre travail, c'est comme
depuis
ça ?
Depuis toujours, voilà, depuis toujours. Quand je parle, par exemple, quand je pense à Professeur de Fausto Romitelli, qui vient de l'œuvre Professeur Bad Trip, et c'est comme ça que je fais même mon rapport à la musique, c'est d'abord de savoir qui est, par exemple, Fausto Romitelli, quel a été le contexte de l'œuvre. Donc du coup, je plonge comme ça dans tous les écrits que je peux trouver autour de telle musique, autour de tel compositeur, quelle a été sa vie, pourquoi ce titre, pourquoi cette œuvre. Et c'est un peu comme si j'allais à la rencontre de la personne, même si elle n'existe pas, puisqu'en l'occurrence, Fausto Romitelli n'était déjà plus de ce monde quand j'ai créé Professeur Bad Trip, qu'il a laissé pour nous Professeur Bad Trip. Et j'écris beaucoup, et c'est vrai que j'écris, voilà.
Donc et vous lisez. Vous écrivez et vous lisez.
Ouais. Je lis, j'essaye, parce qu'avec l'emploi du temps que j'ai, c'est pas toujours facile.
Quand vous dites qu'il n'y a pas de livre dans un studio de danse, mais est-ce que vous en apportez parfois ?
Exactement. J'en apporte toujours, voilà. Et puis, je partage. Je partage ces lectures. Je profite aussi, je dirais, de celles... que les danseurs ou les collaborateurs, les collaboratrices apportent, voilà. Et c'est vrai que les mots font... De toute façon aussi, il y a quand même dans la danse contemporaine et dans notre façon de créer, mais aussi de transmettre, un vrai pouvoir des mots, puisque moi, parfois, je montre la danse, mais parfois, je la montre pas, je l'explique. Et j'essaye d'expliquer ce qu'il y a dans ma tête, j'essaie de transmettre ma vision, j'essaye de guider, on va dire, le pas des danseurs avec mes mots, avec... Et finalement, on est tout le temps en train d'échanger et ce lien de communication et d'essayer de se comprendre d'une certaine manière. Donc oui, ça fait partie complètement de mon processus de travail.
Est-ce que ça veut dire que sur le même plan de votre désir de mouvement, de bouger, de danser, qui s'ancre dans l'enfance, il y avait ce rapport aux mots ? Ce serait comme avancer sur les deux pieds ou quand même pas ?
Non, quand même pas, parce que enfant, je lisais pas. Tout simplement parce que j'y avais pas accès. Pourquoi ? Parce que mes parents ne lisaient pas, donc ça n'a pas été naturel pour eux de nous transmettre en fait ce goût-là, puisqu'ils ne l'avaient pas, tout simplement. Et j'ai découvert la littérature au lycée ou au collège. Mais par contre, j'étais très, très bonne en français. Et j'aimais beaucoup ça. Et c'est vrai que parfois, c'était un peu contraignant. On était un peu obligé de lire tel ou tel livre. Mais finalement, je finissais par m'y plonger vraiment et aimer ça. Et après, la lecture, elle est venue plus tard quand même. Enfin, voilà. Mais non, ça faisait pas du tout partie des loisirs, on va dire, à la maison. Moi, je dansais, hein, je faisais que danser.
À quel moment la lecture, elle est arrivée dans votre vie alors? Et comment?
Bien, elle est arrivée, je dirais, après le bac, quand j'ai commencé à partir de chez papa-maman, et que le soir, je me sentais seule. Simplement. Ouais. Et que le soir, je me sentais seule. À l'époque, moi, j'avais pas Internet. Il n'existait pas tellement de moyens de communication à part la cabine téléphonique du coin. J'étais à Montpellier, mes parents étaient à Saint-Brieuc, mes amis aussi. Et c'est vrai que je me suis sentie très vite toute seule. Et dès que j'ai eu un bouquin dans les mains, je partais comme ça dans un monde. Et c'était comme une espèce de fuite, en fait, de cette réalité qui parfois était un peu difficile. Et je me rappelle de deux expériences un peu marquantes. J'avais fait un projet en Suisse, avec Guillermo Botello pour le passage à l'an 2000. Et j'avais rencontré, en fait, une collègue danseuse. Et on partageait ce plaisir et ce goût de la lecture et on échangeait plein de bouquins. Et quelques mois après, j'étais allée m'expatrier 3 ou 4 mois au Japon, toute seule. J'avais fait mon premier dossier, donc j'écrivais, je montais des projets, etc. Et je suis partie avec beaucoup de livres et elle m'en envoyait, en fait, pendant 3 mois, toutes les semaines. Et j'ai lu. Et ce séjour au Japon a été à la fois extraordinaire, merveilleux, c'était moi qui avais choisi d'être là-bas, donc forcément j'étais heureuse, mais en même temps horrible, parce que je me sentais très loin. Encore une fois, il n'y avait pas ces moyens de communication qu'on a aujourd'hui.
De fait, vous étiez assez loin.
Et là, alors là, évidemment, mes amis et mes meilleurs amis étaient les livres.
En même temps, c'est assez beau parce que, je le disais, moi, ce que je sens beaucoup dans votre travail ces dernières années, c'est l'idée de la transmission, de la communication, quelque chose qui passe, en effet. Et là, tout de suite, les livres, ça évoque quelque chose qui vous est donné ou quelque chose qui vous relie ou quelque chose qui vous coupe de la solitude. Donc, c'est assez cohérent. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui marque vos lectures dans ce voyage au Japon ou dans l'échange avec cette collègue danseuse? Est-ce qu'il y a des livres qui ressortent de cette période-là ou pas nécessairement?
Justement, je les ai notés. Là, il y avait tout le... Il y a Nexus, enfin Sexus, Nexus, Plexus, Plexus, Sexus, Nexus, je ne sais plus dans quel ordre, d'Henry Miller, qui a été pour moi... Alors déjà, il y a un personnage qui s'appelait Maud, je ne sais pas si vous vous rappelez, et elle s'en prenait plein la tronche. Moi, j'étais jeune et ça, j'étais en fait... Ce qui me marquait, c'est que vraiment, comme une fiction aujourd'hui, je ne sais pas, au cinéma
vous
ou à la
prise.
Télé, j'étais complètement dans l'histoire, complètement... Mais dans la langue aussi, je ne sais pas, la manière dont l'autrice ou l'auteur pouvait manier les mots, la syntaxe, ce que ça racontait, évidemment le fond, mais aussi la forme, ça me touchait profondément. Et alors que c'était, comme je le disais, assez étranger à je dirais, à mon éducation, à ma culture même, d'un seul coup, j'avais l'impression d'être chez moi. Donc quand on m'offrait un livre, j'avais l'impression que forcément, il parlait de moi. Et en plus, si le personnage s'appelait Maud, il y avait un transfert total. Et je pouvais passer des heures comme ça. Il fallait que j'aille au bout du bouquin. Puis là, en l'occurrence, il y en avait 3, donc il fallait que j'aille au bout des 3 tomes.
Donc, là, vous avez quel âge quand vous lisez Henry Miller?
Là, j'ai 20 ans. Ouais. À peu près 20 ans, voilà. Et je découvre aussi la sexualité, puisque c'est très cru. Et je découvre une sorte de littérature érotique. Et j'arrive, j'ai quand même 20 ans. Et c'est marrant parce que je l'ai souvent dit, mais lorsque mon père, qui en fait avait donc ses platines dans le garage, dans le sous-sol, et qu'il récoltait comme ça, enfin, il glanait des disques qui allaient, et c'est vrai, hein, de la Compagnie Créole, en passant par Lee Louise, French Kiss, et que moi, je mets le disque de Lee Louise, qui est en fait un titre emblématique de la house de la côte est des États-Unis, où on entend pendant 8 minutes une femme monter comme ça, enfin le climax d'une jouissance sexuelle, et c'est un titre absolument génial. Et je sais pas pourquoi, ça va, j'ai pas non plus rien vécu du haut de mes 20 ans, mais il y a un truc à la fois d'une rencontre artistique, esthétique, je dirais viscérale, sensible, sensorielle. Et ça m'a fait la même chose, en fait, avec Henry Miller.
Avec Henry Miller.
Mais vraiment la même chose. Et ça me marque. Et d'ailleurs, si on me demande quel est l'auteur qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est Henry Miller, alors que j'ai lu 3 livres.
Mais en même temps, ça suffit. C'est très fort. Et
ça
vous
va.
Aviez 20 ans.
Et j'avais 20 ans.
Est-ce qu'il y a d'autres livres qui seraient comme ça à placer dans la constellation de vous qui faites entrer la lecture dans vos pratiques Maud Le Pladec?
Il y a pas un livre, mais il y a un poème qui est Le Clown d'Henri Michaud. Et c'est le poème, en fait, sur lequel je suis tombée sur mon bac de français. Et j'avais absolument pas bossé, parce que moi je bossais pas à l'école, et ça marchait quand même. Et j'avais juste prié pour que je tombe sur le seul poème que j'avais appris.
Et c'était
qui était le clown d'Henri Michaud. Et je suis tombée sur le clown d'Henri Michaud. Et j'avais des tartines à dire, parce que j'ai adoré ce poème. Et d'ailleurs, j'ai eu une très très bonne note au bac de français.
Et est-ce que ça vous a fait lectrice d'Henri Michaud ou pas spécialement?
Oui, de temps en temps. J'y plonge. Après, je dois être honnête, je me rappelle plus vraiment. C'est un peu comme ça, je peux replonger. Et d'ailleurs, ça va faire le lien avec les livres dont on va peut-être parler aujourd'hui, c'est-à-dire que je me remets à lire de la poésie en ce moment.
Et vous savez pourquoi ?
Parce que le monde va mal. Et que j'ai l'impression que, un peu comme je disais que quand j'avais 20 ans et que je me lançais dans l'aventure... je dirais, enfin, voilà, je quittais la maison et puis je me lançais dans cet inconnu qui était vouloir être danseuse avec tout ce que ça demandait de risques. Puis aussi, ça a été très très compliqué. Ben, je me plongeais dans les livres et là, je trouve que quand le monde va mal, je me plonge dans la poésie parce que j'ai l'impression que quand tout va mal, il ne reste que ça.
Et concrètement, vous lisez quotidiennement. C'est quoi la place de la lecture dans votre vie chargée aujourd'hui ?
Oui, en ce moment, je lis quotidiennement. Bon, déjà, je lis les nouvelles. Voilà, mais je lis... vraiment, en ce moment, je lis quotidiennement et je suis très contente d'avoir retrouvé ça. Et ça, c'est post-JO, j'avoue. C'est-à-dire que ça a été tellement difficile... ça m'a pris tellement un bout de ma vie pendant 2 ans. Ce travail colossal qui était... que de remplir cette mission de direction de la danse pour les 4 cérémonies, c'était extraordinaire, que ça m'a tellement vidée que j'ai, encore une fois, on fait le lien.
C'est marrant, ce rendez-vous avec la lecture.
Voilà, eu besoin de me ressourcer. Et
vous êtes allée vers des auteurs ou des autrices en particulier ou pas après cette immense aventure?
C'est ce que je disais, tous les auteurs qui sont là. Ouais. Alors après, le premier livre que j'ai acheté, c'est le dernier livre de Mona Chollet, « Résister à la culpabilisation ». Voilà. Puis ensuite, je suis allée vers la poésie et je suis retournée vers Audre Lorde. Et puis aussi, un livre que j'ai amené parce qu'il m'a beaucoup plu, c'est Son odeur après la pluie. Parce que moi, j'ai un petit chien qui s'appelle Charlie, qui est en fait mon meilleur ami, ma vie, mon fidèle compagnon. Et c'est vrai que beaucoup de gens, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont du mal à la fois à parler, d'écrire quel est ce lien entre... nous et un animal domestique, par exemple. Et comme je l'amène partout, je vois effectivement qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui sont réfractaires et qui ne comprennent pas très bien pourquoi, en fait, pourquoi moi j'arrive autant à tisser des liens avec Charlie, qui est un petit chien, et mes amis, ma famille, ma compagne. Et je trouve que Cédric Sapin de Four a réussi vraiment à décrire ce que c'était que cet amour.
On vous a pas laissé rentrer avec un chien à la maison de la radio?
Non, j'ai pas osé l'amener surtout.
Ouais.
Je sais où je peux l'amener, sais où je peux pas l'amener. Je sais quels sont les endroits dog-friendly et ceux qui ne le sont pas.
Sachant qu'un de mes invités a réussi à amener son chat, mais il est parti, il a passé la sécu en courant.
C'est ça, mais un chat, on peut le cacher. Charlie, il est un peu trop gros pour que je puisse le cacher. Par contre, sachez que beaucoup de théâtres et d'institutions sont devenus dog-friendly depuis mon passage.
Ah, y compris pour les spectateurs? Non, si quand même tout le monde commence à arriver avec son chien, c'est compliqué.
Non, non, non. Par contre,
pour les artistes.
Voilà, c'est-à-dire que moi, en tant qu'artiste, je peux l'amener aux répétitions, je peux le mettre en loge pendant la représentation, il peut venir au pot de première, il fait même les bords plateaux avec moi, à un tel point que certains articles de presse, et notamment les derniers, parlent de mon petit chien, puisque en fait, je suis tout le temps avec lui maintenant.
Donc Charlie est un petit peu avec nous. On va parler des textes que vous avez sélectionnés pour déballer votre bibliothèque juste après ça.
Le ciel est noir. Mais j'y vois clair et la pluie.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour. Et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues, mon amante, comme une ivresse obsédante.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Le long du fleuve, mon âme sœur, du haut
daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme.
On va entrer dans ce deuxième temps de votre bibliothèque Maud Le Pladec avec des textes que vous avez choisis pour nous, des livres et à l'intérieur de ces livres des extraits précis. Est-ce que vous voulez nous dire comment vous les avez choisis ?
Alors, comment je les ai choisis ?
Quand on vous a dit sortez 5 livres de votre bibliothèque.
J'en ai sorti 8. Déjà.
Voilà. Normal.
Voilà, normal.
Et encore, c'est assez sage. Encore, c'est assez sage. Il y a des invités qui nous disent bon, alors j'ai commencé par 27, puis 18, puis 12.
C'est vrai. Ouais. Moi, en fait, il y avait des livres que je lisais déjà, donc ce dont je parlais tout à l'heure, celui donc Son odeur après la pluie. J'étais déjà dans ce petit bouquin qui est absolument génial, qui s'appelle, dont le titre est incroyable. Hein, je lis, c'est Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédéguine. Voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Donc j'ai ramené celui-ci. Et puis, j'étais aussi déjà dans Résister à la culpabilisation de Mona Chollet. Et ensuite, je me suis dit, c'est une bonne occasion pour aller à la librairie et puis, comme ça, choisir des livres. Et c'est vrai que je me laisse complètement guider par mon intuition, mon envie du moment. Et puis, je suis retournée assez naturellement vers Audre Lorde, que je lisais et dont j'avais abandonné la lecture depuis quelques années. Et donc, j'ai choisi Charbon et La Licorne Noire. Et puis, comme j'aimais la poésie, j'étais au rayon de poésie, puis je suis tombée sur Répéter les symptômes de Rosemary Waldrop. Alors pourquoi j'expliquerai peut-être plus tard pourquoi j'ai choisi ce petit essai aussi.
En tout cas, c'est des livres du moment, votre
c'est
choix.
Vraiment, alors voilà, vraiment, c'est
pas une idée d'un parcours de lectrice, c'est une photographie de maintenant.
C'est here and now, quoi. Okay. C'est voilà ce que je lis, voilà ce qu'il y a aujourd'hui sur ma table de chevet. Et moi, c'est comme ça, c'est-à-dire que je passe tout le temps d'un bouquin à un autre. Alors, autant à 20 ans, je me tapais
tout Henry Miller et la
Henry
trilogie.
Miller. Et je ne lisais rien d'autre. Autant maintenant, un petit peu comme je procède aussi dans le travail, je fais toujours plein de choses en même temps. Je suis au Ballet de Lorraine, je fais les JO, je quitte le CCN d'Orléans, je suis entre Nancy, Paris, etc. Là, c'est pareil, je fais un peu de Cédric Sapin de Four, puis ensuite je passe à Rosemary, ensuite je vois pourquoi il faut quitter absolument son mari et tuer ses enfants. Enfin, voilà, c'est un petit peu comme ça que je procède.
Avant d'entrer précisément dans les extraits et de les lire avec vous, on n'a mentionné aucun livre, aucun texte se référant à la danse, l'histoire de la danse, biographie de chorégraphe, biographie de danseur, danseuse, ça ne fait pas du tout partie de vos lectures.
Ça ne fait pas du tout partie de mes lectures, ouais. Mais pas du tout. Alors ça peut faire partie de mes lectures dans le cadre d'un processus de création, ce que je disais.
Mais que vous différenciez complètement. Il y a vos lectures pour le travail et la danse, et il y a ce qu'il y a devant vous et qu'il y a autre chose pour vous.
En fait, ce qu'il y a devant moi, c'est aussi mes lectures pour
du
le
travail.
Ouais. Voilà. C'est-à-dire que je pense que ce qui anime ma danse, c'est avant tout mes valeurs, ce que je suis, mon identité, la place que je prends dans ma vie, comment celle-ci prend une place dans la société, comment la société elle-même
prend une
essaye
place dans
de prendre
vie.
Une place dans la vie de la société. Enfin, et donc, vraiment, c'est vrai que tous mes projets sont nourris, je dirais, d'une pensée à la fois féministe, de questions qui ont à voir avec des questions d'identité sociétale, artistique aussi. C'est pour ça que ce petit bouquin de Rosemary Waldrop, c'est avant tout sa dramaturgie qui m'a plu. Je me suis dit, tiens, c'est une super dramaturgie pour la prochaine pièce. Ça fait quand même... En fait, c'est surtout ça, je dirais, le support de mon travail. Et je m'inspire beaucoup de mes contemporains. Je m'inspire beaucoup, évidemment, de gens qui ont fait l'histoire de la danse. Mais je ne rentre pas dans leur pas, enfin dans le pas de leur travail ou de leur vie. C'est un peu comme si ces gens-là étaient mes collègues, quoi. Je sais pas comment dire, voilà. Mais non, ça fait pas partie de mes lectures, non.
Vous avez prononcé son nom plusieurs fois. On va écouter la voix de la poétesse Audre Lorde. Ça fait partie d'une émission qui s'appelle Une vie, une œuvre, produite par Charlotte Bien-Aimée, diffusée en 2017 sur France Culture, La Voix.
I started out like all of us start out, a coward. afraid.
J'ai commencé comme tout le monde, peureuse et craintive.
It's not to say I'm not afraid now.
Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur maintenant.
Whether I am afraid or not, I count less. I value myself more than
j'ai plus
I value
d'estime
my
pour
terrors.
Moi que pour mes peurs.
It does not mean I don't have them.
Ce qui ne veut pas dire que je n'en ai pas.
Once I take that position, I can look
j'ai
at
pris
them
cette position,
and see
je peux les regarder
what it is they teach me.
Et voir ce qu'elles m'enseignent.
When you are born black and female in a society that defines humanness as white and male,
quand vous naissez noir, une femme noire dans une société qui définit l'humain comme blanc et masculin, vous reconnaissez très vite que la survie n'est pas une question théorique, mais une bataille de tous les jours. Nous apprenons que nous sommes en danger, tout le temps dans le risque.
And that lends a certain commitment to every
aspect. Et cela demande un certain engagement dans tous les aspects de nos vies.
And poetry is part of my living. It's part
et la poésie
of my
est une partie
arsenal.
De ma vie.
It is one of my weapons.
Une de mes armes.
By which I attempt to change what must be our common future.
L'arme avec laquelle j'essaie de transformer notre avenir commun.
C'est la voix d'Audrey Lorde dans deux archives différentes qu'on peut retrouver dans l'émission Une vie, une œuvre qui lui est consacrée. Je rappelle qu'elle est née à New York en 1934 et morte à Sainte-Croix aux États-Unis en 1992. Vous disiez, Maud Le Pladec, je suis revenue récemment à Audrey Lorde. Je l'ai lu à un moment donné, puis j'ai arrêté de la lire, puis j'y reviens. Est-ce que vous voulez nous parler du lien que vous entretenez avec cette poétesse?
Oui, en fait, c'est une poétesse. Poétesse, pardon, elle est essayiste, mais elle est aussi militante féministe, antiraciste, lesbienne. Elle est américaine, donc je pense que ce que j'aime, c'est aussi
qui elle est,
mais aussi le fait qu'elle écrive, que je puisse lire ses poèmes à la fois en anglais et en français. J'ai quand même un peu toujours l'impression de voyager aussi avec elle, et elle en parle très bien dans les extraits que vous avez choisi, c'est son engagement en fait qui me rappelle un peu à l'ordre, même si je suis tout, c'est le cas de le dire, Audrey Lorde, qui me rappelle toujours un peu à l'ordre, c'est-à-dire je pense qu'elle a une façon aussi d'exprimer toute la complexité d'être au monde, d'être une femme, tout en même temps menant un combat en fait. Elle exprime ou en tout cas elle explore des thèmes essentiels dans la vie pour moi, qui sont l'identité, l'oppression, la justice sociale. Et je crois qu'elle a une puissance, enfin, il y a une puissance dans sa voix. C'est très chouette de l'entendre parler, puisque moi, quand je lis ses poèmes, j'ai l'impression, en fait, je relis ça aussi au mouvement hashtag MeToo, c'est-à-dire, d'un seul coup, comment, en tant que femme ou en tant qu'être, c'est important de porter sa voix. Et d'ailleurs, elle a dit un truc qui m'a toujours suivi, c'est « Nos silences ne nous protégeront pas ». Et je crois que c'est vrai. Et donc, vous parliez tout à l'heure de transmission, de communication. Je pense que ça fait quelque chose qui fait partie de mon ADN, de travail aussi. Et je crois que c'est important pour moi que la danse fasse récit et qu'il y ait un récit derrière la danse. Dans mes pièces, il a toujours été un peu caché. Je m'exprime, je suis assez pudique. Ça raconte jamais 10 histoires et pourtant, il y en a des tonnes derrière et qui sont très intimes. Et je crois que c'est là aussi la raison pour laquelle j'ai pas tellement eu envie de les révéler. Je prends la voix de quelqu'un d'autre pour exprimer ce que finalement je ressens. Voilà. Mais par exemple, si on prend la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, ce qui est sûr, c'est qu'on on a raconté plein de choses et on a livré de très beaux messages d'amour, de rassemblement, d'inclusion. Et c'était très fort pour moi de pouvoir porter cette voix justement à une échelle à la fois nationale et mondiale et de dire à quel point il est important aujourd'hui à la fois de revendiquer qui on est, de s'unir, de s'aimer, de combattre, etc. Et je crois qu'Audrey Lorde, elle me rappelle toujours ça.
Et alors c'est intéressant parce qu'à la fois vous évoquez un travail assez souterrain de tissage de récits, d'histoires dans vos pièces où c'est gardé assez souterrain et assez silencieux, et un inverse qui est chorégraphié pour la cérémonie des JO où les mots étaient même affiché, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus projeté. C'est pourquoi ? C'est juste parce que c'est un tout petit peu moins personnel ou c'est juste une autre expression de votre
travail ?
Non,
c'est tout simplement parce que le directeur artistique, c'était Thomas Joly.
et qu'il avait moins peur d'y aller.
Il avait moins peur d'y aller. C'est un homme.
C'est un homme. Et que lui, il vient du théâtre, donc il manie les mots, il a plus l'habitude. Donc quand même, il ne faut pas oublier qu'en tant que danseur, même moi dans mon processus, je dirais, d'artiste et de chorégraphe, d'autrice d'une certaine manière,
bien sûr,
peut-être se rejoue implicitement, inconsciemment,
Une silenciation
qui est liée à l'éducation de la danse. Hein. On est mutique, on regarde, on fait, on exprime peu, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi, quand même, dans mes pièces, j'ai eu besoin à un moment donné et très vite d'utiliser la voix. Hein. J'ai quand même fait Counting Stars With You, musique femme, qui parle de la place des femmes oubliées dans l'histoire de la musique, où ça ne fait que chanter, dire, parler. Donc, j'ai quand même fait Motocross, où c'est un texte à la fois politique, intime, une sorte d'autofiction, où je ne fais que dire, parler. Puis, à un moment donné, whoop, je retourne dans la musique danse, dans mon silence, dans le monde, finalement, dans ma zone de confort, avec une danse plus abstraite, où il y a toujours ce récit, je dirais, caché. Enfin, on met toujours de soi dans les pièces qu'on fait, même les plus abstraites. Et c'est vrai que j'ai souvent dit que Thomas Joly, à chaque fois que j'ai travaillé avec lui, m'a poussée à ce récit-là, m'a poussée à dire et à raconter des histoires. Je ne sais pas raconter des histoires. D'ailleurs, à part Son odeur après la pluie, je ne lis pas de romans. Je ne lis que de la poésie. Enfin, je lis principalement des essais.
Théorie et poésie, quoi.
Théorie et poésie, en fait. C'est un peu ma came, j'avoue.
On lit vous lisez plutôt un des textes d'Audre Lorde que vous avez choisi. Donc, il y en a deux. Je vous propose qu'on ouvre les extraits avec l'un des textes. Est-ce qu'on est d'accord que c'est Conversation en crise ?
Alors, on va prendre Conversation en crise qui est dans Charbon, je crois, si je ne me trompe pas.
C'est tout à fait dans le recueil Charbon, avec une traduction collective du collectif C'est elle. Et si vous êtes prête, on vous écoute.
Conversation en crise. Je te parle comme parle une amie ou une véritable amante, non par amitié ni par amour, mais pour une rencontre sincère de soi à soi, devant notre foyer, mais sans flamme. Je chéris tes mots qui sonnent comme l'été finissant tonne pour chanter sans octave et s'évanouir la saison dite. Mais j'entends la chaleur trompeuse de cette voix qui sèche le contour de tes mots, enjolivant de mélodie ta langue, et cette musique ourlée est trahison. Dois-je mourir dans ta fièvre, ou, quand le feu monte, m'abriter dans les conduits de ton cœur tapis comme une étrangère, sous les feuilles brûlées de tes autres amours consumés, jusqu'à ce que la tempête passe ?
C'est un poème qui s'appelle donc « Conversation in Crisis ». Vous avez un recueil bilingue et tout à l'heure, vous disiez aussi que vous aimez bien pouvoir les lire en anglais. Vous lisez aisément en anglais ?
Oui, ça va. Je parle anglais assez couramment.
Donc, vous avez aussi accès à ce rapport-là, à la lecture, à lire dans une autre langue.
Oui, ouais. À écouter, à regarder des films. Enfin, je pourrais pas dire que je suis bilingue, mais j'ai effectivement une certaine aisance avec... la langue anglo-saxonne.
Pourquoi est-ce que vous vouliez choisir ? Il y avait plusieurs poèmes que vous aviez sélectionnés dans le recueil Charbon. Est-ce que vous voulez dire deux mots de celui-ci ? Il est toujours question de la conversation.
Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Bon, déjà, le titre, je le trouve super. Et d'ailleurs, si je regarde tous les titres que j'ai choisis, c'est « Pas de nuit de pleine lune », c'est trop beau.
Ah oui, dans ce que vous aviez
ça
choisi.
« Ça balance ». C'est assez rythmé, et Conversation en crise. Et les titres en anglais sont encore plus beaux, je trouve. Je trouve qu'en fait, bon, faut pas oublier que Audre Lorde est lesbienne, et je trouvais que dans cette... Alors pour moi, c'est mon interprétation, mais en tout cas, dans ce poème, il y avait, enfin, dans ce que j'entendais de cette conversation qui était en crise, ce qu'elle voulait dire, c'était peut-être une conversation qui est en doute ou l'expression d'un doute ou d'une forme d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle parle à une amie, une amante. Elle parle du trouble, effectivement, qu'il peut y avoir.
D'ailleurs, elle dit qu'elle veut parler à une figure qui pourrait être ça, tout en même temps.
Qui pourrait être tout en même temps. Et moi, je trouve que souvent, l'amour, on a envie de le catégoriser. C'est-à-dire, on aime je sais pas, son amant ou son amante d'une, de telle ou telle manière, son compagnon ou sa compagne de telle ou telle manière, ses amis. Alors qu'en fait, moi, j'ai une définition de l'amour beaucoup plus élargie et je peux aimer passionnément mes amis. Enfin, j'ai vraiment... Enfin, je trouve qu'il y avait... Enfin, voilà, ça me racontait un petit peu ça. Et puis, il y a toujours une sorte de nostalgie, de mélancolie aussi dans, dans sa façon d'écrire, qui, alors, qui me ressemble pas tellement dans la vie, mais qui me ressemble profondément, en fait. Je suis quand même cancer, bretonne, enfin, il y a un peu un truc, voilà. Et bon, on est...
Je l'attendais vraiment pas du tout. Je m'attendais pas du tout à avoir rapatrié le Saint-Brieuc et le signe astrologique.
Alors moi, franchement, quand j'allais pas bien, j'allais sur la plage et je me mettais comme ça sur un rocher et je pleurais des heures, en fait. Donc, il y a quelque chose un peu, voilà, je
cancer, sais pas...
ouais. Et puis, je sais pas, Comment
il y a quelque chose qui vous parle dans cette
poésie. Il y a quelque chose qui me parle. J'ai pas tellement réfléchi, j'avoue, alors que j'aurais dû, sachant que j'étais invitée à cette émission, réfléchir pourquoi j'ai choisi ça.
Bon, en même temps, ça dit aussi que ça vous parle sans avoir nécessairement besoin de l'intellectualiser.
C'est ça. Ça me touche.
On n'est pas obligé d'avoir nécessairement un discours
ça
sur
me
pourquoi
parle,
est-ce que les choses
me touchent. Ça me ressemble, en fait. Je pense que j'aurais pu écrire ce poème. Voilà. En toute humilité.
On passe à un deuxième extrait. Vous en avez parlé rapidement. Vous étiez dans ce rayon poésie, oui. Maud Le Pladec, et vous avez trouvé ce petit livre rouge, Rosemary Waldrop. Il y a quand même à chaque fois des titres très percutants, c'est-à-dire qu'ils soient courts ou qu'ils soient longs dans ce que vous avez choisi. Il y a une importance ou un soin qui est apporté au titre. C'est le cas aussi pour vos pièces.
Exactement.
Il y a toujours quelque chose de très important dans les titres.
Titres, c'est vraiment important.
Manifeste et en même temps mini-poème.
Exactement. Bah, quand même, c'est Counting Stars With
J'adore
You.
J'adore
entre, entre parenthèses, musique-femme.
Meilleur titre.
Ouais, il est très beau celui-ci. Compter les étoiles avec toi, c'était aussi compter pour ne plus compter, c'est-à-dire en fait, on compte aujourd'hui le nombre de femmes qui sont à la tête des institutions, le nombre de femmes qui sont victimes de féminicide, on compte. Et c'était aussi renverser un petit peu le rapport, dire ben comptons au sens de ayons de la valeur pour qu'on ne compte, pour qu'on ne nous compte plus dans les pourcentages en fait.
Et qu'on compte juste les étoiles.
Et qu'on compte juste les étoiles. Et puis je trouve ça très 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 romantique en fait. Voilà, et puis c'était aussi l'idée de, finalement, que toutes ces femmes oubliées dans l'histoire de la musique, elles soient comme une sorte de constellation d'étoiles au-dessus de nos têtes et qui ne finissent jamais de briller. Et que finalement, si on regarde en bas, on les voit pas, puis il suffit de lever la tête au ciel et elles sont là et elles resteront là pour l'éternité.
Voilà. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez dans une librairie comme ça, à l'affût de titres qui vous arrêtent. Et là, vous dites à propos de vos pièces que les titres sont comme des statements. Ça veut dire que c'est presque le titre qui lance le travail. Est-ce que le titre vient, on va dire, solidifier quelque chose qui...
C'est les deux. Parfois, c'est le début. Counting Stars With You, ça vient d'une chanson, en fait. Hein. Mm. C'est les paroles d'une chanson. Et puis qui, en plus, a une place toute particulière dans ma vie amoureuse. Voilà. Et par exemple, Silent Legacy, c'est plutôt venu après, c'est-à-dire que j'avais sorti de Counting Stars With You, je voulais continuer à questionner ou à travailler autour de l'héritage, de la culture chorégraphique, de qu'est-ce qu'on hérite. Est-ce qu'il y aurait une sorte de danse transgénérationnelle dont on hériterait comme ça? Et ça m'a particulièrement marqué quand j'ai rencontré Adeline Kerry-Cruz, qui était une crumpeuse à l'époque quand je l'ai rencontrée, qui avait entre 5 ans et demi et 6 ans et demi, enfin 6 ans, voilà. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est la réincarnation de Tommy the Clown, qui a été en fait celui qui a inventé le mouvement crump, c'était pas possible. Je me disais,
d'ailleurs, le clown Henri Michaud, Tommy the Clown.
Voilà, allez, revoilà, exactement, voilà. Il y a beaucoup de liens, en fait, hein, comme ça. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on hérite comme ça? Et puis, elle parlait pas, et je me disais, mais qu'est-ce qu'on hérite dans le silence? Et voilà, Silent Legacy. L'héritage silencieux. Et je disais tout à l'heure, nos silences ne nous protégeront pas. Voilà. Et donc, et puis c'est vrai que à la fois dans la danse, ça part des mots. En même temps, il faut nommer quand même toujours. Enfin, si vous saviez comment on parle parfois de la danse, c'est on met des titres sur une section de la danse qu'on appelle, et on leur donne des titres hyper bizarres, etc.
Aussi dans la logique de transmission,
dans la
de notation,
de notation, puis aussi de compréhension entre nous.
Séquence canard, séquence
poète. Exactement, c'est ça. C'est séquence poète. Je sais plus, j'ai plus les noms, mais j'en ai des tonnes. Voilà. Ou parfois, on s'attache à ne surtout pas nommer parce qu'il se passe quelque chose qui est au-delà des mots.
Et qu'il ne faudrait pas réduire.
Et qu'il ne faudrait pas réduire. Ouais. Parce que, il ne faudrait pas réduire parce que, en fait, je ne comprendrai jamais ce que vous êtes. Mm. Et ce que vous dites, je peux comprendre que votre cadre de référence. Mm. C'est ça, l'empathie, ok. Et vous ne comprendrez jamais ma relation au monde.
Bien sûr.
Et on aura beau voir ou utiliser le même mot, il n'aura jamais le même sens ni la même signification. Donc tout est absolument subjectif et relatif. Et des fois, c'est ça qui est merveilleux, c'est quand quelque chose, en fait, en tout cas, moi je trouve que j'ai ça avec la danse, advient, et que d'un coup, hein, spectateur comme Jean Plateau, on ressent et on voit la même chose. Mmh. Mais il ne faut surtout pas y mettre des mots dessus.
Tout ça pour dire que les titres ont leur importance et que dans cette librairie, Maud Le Pladec, vous vous arrêtez sur un livre de Rosemary Waldrop dans une traduction de Parole Koenig et qui s'appelle « Répéter les symptômes ».
Ouais, alors ça, c'est complètement moi. Je répète les symptômes beaucoup. Est-ce que vous voulez que je vous en dise un peu plus ?
Oui, bah, vous disiez tout à l'heure que la dramaturgie vous avait interpellée.
Exactement. Bon, déjà, dans le titre, il y a « Répéter les symptômes », et il s'avère qu'en fait, elle répète le même mode opératoire, c'est-à-dire qu'en fait, elle travaille chaque petite section de son livre par des verbes d'action, voilà. Ou des verbes tout court, qui sont « vouloir »,« penser »,« douter »,« savoir ». Accoupler, échapper à l'analogie, c'est très joli ça par exemple, signifier, et elle va finir par vieillir. Et c'est vrai que moi ça m'a parlé parce que je procède aussi beaucoup comme ça, je pense que c'est un petit peu un outil de travail, j'ai l'impression que j'ai découvert un projet, j'avais fait professeur de bad trip où il y avait listen one, two, three, donc j'ai quand même un rapport aussi à la structure qui est très fort dans mon travail. Tout le temps, un rapport à la partition. Et pour moi, c'est une jolie partition, en fait, ce petit bouquin. Et puis, je l'ai choisi comme ça, parce que je savais que j'allais venir ici. Et je me disais, tiens, c'est marrant, elle répète les symptômes, elle répète les mots. Et puis, ça me fait penser aussi, quand on commence la danse, on commence par travailler les verbes d'action. Mais vraiment, hein, vous donnez un cours d'initiation, et c'est peut-être pas très intéressant ce que je raconte, mais quand même,
passionnant.
D'initiation et d'éveil aux enfants. Et on commence par rouler... glisser,
c'est vraiment des mots,
attraper,
quoi.
Ouais. Et d'ailleurs Noé Soulier continue de travailler avec ses verbes d'action et fait des pièces absolument magnifiques. Et c'est vrai que finalement le départ du mouvement c'est aussi le départ du geste et ça vient d'une intention et une intention c'est quand même un verbe d'action.
Vous avez choisi de lire un extrait de ce livre de Rosemary Waldrop, vous avez hésité entre plusieurs sections et finalement vouloir.
Oui, vouloir, c'est très bien. J'ai essayé entre vouloir et vieillir.
De V. On peut faire sinon vouloir vieillir.
C'est ce que j'allais dire.
Moi, beau projet.
Moi, je veux bien vieillir. Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc, autant vouloir.
Vouloir vieillir.
Voilà, donc autant vouloir. Vouloir ce corps possible, toujours. Le penser ici, dans l'anxiété, dans la peur. Mais vouloir. Que la lumière ne prenne jamais fin. Prise entre vouloir et agir, entre langue et paysage, vouloir contenir des volumes, des multitudes, des courbes dans toutes les directions, décrire des cercles de lumière, des traits d'éclairs. Vouloir que le corps soit lisible de la tête aux pieds et sans secret, une nudité sans dette, croire que cela est possible, la lumière en tant qu'événement, penser à la volonté de penser comme en réponse. Douter que j'aime tout en sachant que j'ai voulu aimer. Penser pour me consoler, en décrivant les veines d'un bloc de marbre, comme si je voyais une raison de voir.
Parle dans ce petit texte-là, Maud Le Pladec. C'est marrant parce que tout à l'heure vous disiez j'ai un rapport à la structure, mais vous avez aussi un rapport au programmatique.
Oui.
Parce que c'est presque une partition, ça, oui, en fait.
C'est une partition. Ce qui me plaît, c'est le rythme. C'est la musicalité du texte. En fait, ça pourrait être vraiment, c'est un petit outil de travail, en fait. Ça pourrait être complètement quelque chose que j'utilise pour créer du mouvement. C'est déjà on peut en faire une chanson, on peut en faire une poésie, on peut en faire de la danse, on peut en faire de l'espace, on peut en faire du temps. C'est le temps et l'espace en fait qui me plaît beaucoup. J'ai l'impression de voir une chorégraphie dans l'espace quand
décrite quoi.
Ouais, ouais, c'est une partition. Pour moi, c'est vraiment une partition. Et je trouve que c'est très beau. C'est déjà très beau ce qu'elle dit. Puis des fois, il y a des petites, juste des phrases comme ça qui me plaisent. Une nudité. Je vais y arriver. Une sans nudité dette. Sans dette, c'est tellement beau.
Ouais. Une nudité sans dette,
une
c'est très
nudité
beau.
Sans dette, c'est
et
tellement
d'un seul
beau.
Coup, je pourrais
faire. C'est un titre.
Ouais. Et d'un seul coup, on se dit, et tiens, qu'est-ce que ce serait d'aller vers une nudité sans dette?
C'est ça. Une nudité sans dette, je trouve ça incroyablement beau. Et je me dis, il y a un espace poétique et imaginaire qui s'ouvre. Mm. Et puis en plus, c'est suivi de croire que cela est possible. Enfin, voilà, je trouve que.
C'est un cadeau.
Voilà. J'aime beaucoup aussi penser à la volonté de penser. Mm. Et tout le livre est comme ça.
Oui, c'est presque un petit carnet de notes, quoi.
C'est ça, c'est comme, elle l'a écrit comme ça, c'est entre le haïku, c'est assez philosophique, ça fait réfléchir, c'est très méditatif. Vous lisez tout le livre et en fait, on rentre en méditation. C'est comme des mantras pour moi. Et c'est vrai que je fais beaucoup de yoga, je médite. Et il y a comme quelque chose, quand je l'ai lu, sur le canapé, ça se lit en 20 minutes.
Bien sûr, ouais.
Mais on oublie tout. C'est-à-dire qu'il faut y retourner. Et en fait, je me dis, je suis contente parce que j'avais un peu, alors d'ailleurs, il y a douté, sûrement, j'imagine, dedans.
Oui, il y a douté.
Ouais, il y a douté. J'ai eu un doute en l'amenant, en me disant, mais je connais pas. D'ailleurs, je vous ai dit, mais je connais rien de Rosemary. Je sais même pas si on dit Waldrop ou Waldrop.
Traductrice universitaire, mais c'est assez mystérieux, on s'en doute.
Voilà,
pas plus,
ouais. Et je me suis dit, pourquoi j'ai apporté ce bouquin? Et finalement, c'est peut-être la petite pépite du moment. Voilà, je partage.
Vous avez déjà plusieurs fois parlé de ce livre. On va écouter la voix de son auteur, c'est Cédric Sapin de Four. Il a écrit « Son odeur après la pluie ».
À l'écriture, il m'a vraiment plu d'utiliser, alors de façon assez naturelle, il n'y avait pas d'intention, de provocation, mais il m'a plu d'emprunter un champ lexical qui est habituellement approprié, préempté par l'homme, l'homme avec un grand H. J'ai utilisé joyeusement l'amour, le mot amour, le mot décision, le mot conviction, le mot courage, le mot conscience, le mot intelligence. Et ce n'est pas de l'anthropomorphisme, mais c'est justement une révision du cadastre lexical. C'est-à-dire, pourquoi serions-nous les usagers, les propriétaires exclusifs de ces mots? Ils sont ouverts à tous.
Oui, c'est bien. Bravo. Allez, vas-y. Oui, plus vite, plus vite. Oui, vas-y. Allez, saute, saute. Oui, oui, c'est bien. Allez, ok.
Prendre un chien, c'est accueillir un amour immarcessible. On ne se sépare jamais. La vie s'en charge. Les déclins sont illusoires et les fins insoutenables. De l'aimer me suffit, car vois-tu, je ne saurai jamais s'il m'aime, jamais. Et aimer sans certitude de l'être en retour, je me demande si l'on ne tient pas ici la définition de l'amour véritable. Habituellement, il en faut des rendez-vous successifs, des espoirs et des craintes, des roses et de poèmes, des cliquets prudemment actionnés avant que deux vies s'accordent. Avec un chien, vous entrez seul. L'heure d'après, vous ressortez unis. Avoir un chien, c'est être dans le monde sans y être tout à fait, pas en périphérie, bien dedans mais joyeusement translucide. C'est comme s'autoriser une solitude voilée, heureuse et passagère. Vous seriez sans cesse seul, assis sur un banc, errant dans les foules, les rues et les forêts. On s'inquiéterait pour vous, ou l'on vous traduirait en misanthropie. Mais là, d'être avec votre chien, on vous laisse tranquille. Certains vous comprennent car ils savent, comme ces exils offrent bien plus de réconfort, que les carences qu'on leur en prête.
Ce sont des extraits de « Son odeur après la pluie » de Cédric Sapin de Four. Ça fait partie de phrases que vous avez prélevées, c'est ça?
Oui, exactement.
Dans le texte.
Dans le texte. J'en ai plein. En fait, c'est forcément plus compliqué que le reste des lectures qu'on a partagées ensemble parce que là, pour le coup, c'est une histoire qu'il raconte. Et c'est l'histoire absolument merveilleuse et très profonde. une histoire d'amour entre lui et Ubak, son chien, qu'il a eu tout bébé et qu'il va évidemment accompagner jusqu'à sa mort.
Et un bouvier bernois.
Un bouvier bernois. Et c'est vrai que je dois être très franche, tous les jours je pense à la mort de mon chien. Et je n'ai jamais pensé à la mort depuis que j'ai un chien. Que depuis que j'ai un chien, pardon.
À toutes les morts, vous voulez dire, c'est la présence du chien qui a révélé la question de la mort.
Et pourtant, la mort, le deuil fait partie de ma vie. Moi, j'ai perdu mon papa à l'âge de même pas 25 ans. Ça a été un trauma absolument.
Mais après ça, vous ne pensiez pas à la mort.
C'est-à-dire que, évidemment, j'ai pensé à la mort dans le sens où un des êtres que j'aimais le plus au monde n'est plus là, est parti, et je continue de faire le deuil. Hein. Je pense que le deuil, en fait, à ce niveau-là, c'est toute une vie qu'il prend. Mais là, en fait, j'ai un petit animal et je sais que c'est maximum 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a une finitude. Et ce qui est fou, c'est que lorsque je pense à tous les humains que j'aime, je ne pense pas à la mort, je ne pense pas à leur mort, je ne me dis pas qu'un jour ils vont partir. Comme si finalement, dans le monde des humains, il y avait une espèce de... Alors c'est peut-être... C'est infini, ça n'arrivera pas.
Mais c'est
pas.
Un fantasme d'immortalité, quoi.
Complètement, on est dans un fantasme d'immortalité totale, et c'est la raison pour laquelle, quand ça nous tombe dessus, ça nous frappe, et c'est terrible. Et là, en fait, on sait qu'on a signé, quand je prends un petit chien, je sais que j'ai signé pour accompagner sa vie de 15 ans. Et c'est comme une accélération de nos propres vies. C'est-à-dire qu'il a 5 ans et je vois bien déjà que... Bah voilà. Donc, on m'a beaucoup parlé... Enfin, tous les gens qui ont des chiens entendent beaucoup parler de ce livre. J'ai un peu résisté au départ et puis en fait, je l'ai lu et il est absolument génial. Et c'est vrai que je le lisais. Et puis le début du bouquin, c'est vraiment, il arrive, il prend ce petit chiot, puis après il grandit, puis après il rencontre une femme, et puis lui il rencontre l'amour, puis il a un chien, puis deux, puis trois, il en finit par en avoir quatre. Et je progressais au fur et à mesure dans le livre. Et
redoutant
à chaque fois,
la fin.
Exactement. Et à chaque fois qu'il arrivait un truc à Ubak, je fermais le livre, je me disais, non, demain, je ne peux pas le lire. Et donc, un peu comme exactement... Enfin, encore une fois, j'étais en transfert total. Et finalement, Ubak avait une blessure, mais il s'en remettait, donc je poursuivais la lecture. Et puis là, je l'ai pas fini. Enfin, je l'ai... Enfin, si je l'ai fini, mais je les dernières pages, j'ai du mal. Et je pleure, hein, je pleure littéralement. Je suis en larmes à chaque fois que je lis ou relis, en fait, les passages dans lesquels, effectivement, il est en train de partir.
Ce qui est assez beau dans les citations que vous avez relevées, donc c'est des notes que vous avez notées au fur et à mesure de votre lecture, Maud Le Pladec, c'est l'idée d'aimer face à un amour parfaitement incertain. J'aime cet animal sans jamais savoir s'il m'aime. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que c'était le cas pour les humains. On ne saura jamais l'intériorité d'un tel ou un tel. Mais quand même, chez les humains, on essaie de se faire un peu confirmer la chose, quoi.
On se parle.
Oui, mais bon, il dit aussi que lui, il est capable de parler de langage à propos de son chien.
Ah, moi, je parle avec mon chien.
Donc, on est d'accord que vous êtes censé... Vous pensez que votre chien vous aime ?
Ah, mais il m'aime.
Voilà. Bon, OK.
Mais je n'en aurai jamais...
La certitude absolue.
La certitude absolue, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas dit « je t'aime ».
Ouais.
Il me l'a dit. Il me le dit tous les
bon,
jours,
alors.
À sa manière.
Tout
et
va bien,
moi,
en fait.
Tant qu'humain, je n'ai jamais entendu « je t'aime » de la part de mon chien.
C'est la preuve par les actes.
C'est la preuve par les actes et c'est la preuve par le ressenti.
Ouais.
C'est la preuve d'un amour. Ah oui, on s'aime, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, tout le monde le voit qu'on s'aime. Non, et puis je trouve que, effectivement, je trouve ça beau l'idée de se dédier comme ça à un amour. Et c'est sûr, il y a du retour, mais.
Il y a du retour avec les chiens, c'est
retour,
quand même le moins qu'on
puisse
dire.
Mais c'est vrai que. Comment vous dire ? Vous voyez, enfin bon, moi je suis pas tellement sensible à ça, mais le fameux moment où quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un et d'un seul coup il y a le premier je t'aime. Enfin, on en fait des films en fait. Ben là, il n'arrivera jamais ce moment-là. Mais je trouve ça super parce que donc il y a comme on parlait tout à l'heure de poser des mots sur ce qu'il advient. Et là, il y aura jamais de mots. Moi, je n'arrête pas de lui parler évidemment.
Non, c'est le silence des animaux.
Mais c'est le silence qui en dit long, voilà. Et puis du coup, ça laisse place à la sensorialité, le ressenti, on est de cœur à cœur, on se regarde, on sait, c'est tout ce livre, il ne décrit que ça.
Il raconte tout ça.
Il ne raconte que ça. Et j'aime bien aussi, Tout à l'heure, on parlait comment dans la solitude, les livres m'ont aidé. Mais moi, j'aime bien la solitude que m'offre le fait d'avoir un animal. Je me retire du monde et j'ai une bonne excuse pour le faire parce qu'il faut que j'aille le promener en forêt. Donc, ça m'a reconnectée avec la nature aussi. Voilà, il le dit, voilà, être seul, je serai sur un banc toute seule comme ça, deux heures, on s'inquiéterait. Et là, on voit qu'il y a un chien, on se dit, ah oui, effectivement, elle sort le chien. Mais en fait, non, qui sait, peut-être que je ne sors pas le chien, peut-être que je suis en train de penser à ma prochaine pièce.
Mais voilà. On vous fout la paix.
Mais on me fout la paix.
Autre texte que vous avez choisi, couverture rose fluo, titre à rallonge que je vous laisse le soin de prononcer, Maud Le Pladec. C'est un texte d'Alex Tamessilia.
Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédéguine.
Et on se lance dans un extrait.
Inspiré d'une citation du télé-évangéliste américain Pat Robertson, cet essai féministe, chiffré et documenté, considère que la famille est une secte, la maternité du salariat déguisé et l'hétérosexualité le cheval de Troie du capitalisme. Nouveau Scoum Manifesto, ce texte aborde sans compromis, mais avec un humour libératoire, et ça c'est vrai, la violence, le militantisme, l'amour, la sexualité, la création, les questions de genre. L'Adelphité est de révolte située. C'est une charge antipatriarcale qui interroge aussi le féminisme queer et les milieux lesbiens de l'intérieur avec une tendresse radicale. Il y a une petite blague, parce qu'il y en a beaucoup et ça,
allez,
ça m'a fait beaucoup rire. Combien de féministes faut-il pour changer une ampoule ? 4. La première qui change l'ampoule, les 3 autres qui retiennent le mec de lui expliquer comment.
Alors, vous avez choisi de le parcourir, ce livre-là, de le picorer, un peu comme vous l'avez lu.
Exactement. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est intéressant parce que c'est évidemment ce qu'il explique. Ce que je disais, c'est qu'il est documenté, donc il est chiffré. Donc, on va passer, par exemple, d'une page qui nous dit 96% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. 9 fois sur 10, le violeur est un proche. 80% des violences sexuelles exercées sur les enfants ont lieu dans le cadre familial. En France, selon l'UNICEF, une femme sur 5 et un homme sur 14 déclarent avoir subi des violences sexuelles parmi ces victimes, 81% ont subi les premières violences avant l'âge de 18 ans, 51% avant 11 ans et 21% avant 6 ans. Et là, ça continue par « était encore à lâcher de la stat ». En matière de violences sexuelles, les fausses dénonciations représentent entre 1 et 6% des accusations, quand par comparaison, 20% des Français fraudent leur assurance. Sur la présomption d'innocence doit prévaloir la présomption de vérité. Et ensuite, on passe à les mots qu'on prononce, ils restent dans l'univers quelque part à un endroit du temps comme s'agrippent dans le ciel les nuages. C'est de Mylène Tournier. Donc on passe en fait à des stats comme ça, avec effectivement une petite phrase ou punchline assez, assez corrosive et radicale, à un petit moment suspendu, et puis on retourne dans quelque chose qui fait un peu plus mal ou qui fait un peu plus rire, comme « Le féminisme t'encourage à quitter ton mari ». Franchement, je trouve ça absolument génial, parce que c'est à la fois vrai et pas vrai. Dans les sociétés occidentales, l'égalité en matière de droit du travail, du droit de la famille et du droit de propriété est une conquête des 19e et 20e siècles qui paraît désormais acquise. Pourtant, en dépit de ce droit formellement égalitaire, les hommes continuent à accumuler davantage de richesses que les femmes. Et puis après, on va avoir des petits mots comme ça, avec une espèce de structure un peu graphique qui dit « Après, c'est sur le dos qu'il faut pleurer, tu restes en ligne, à l'écoute des peines, une fondue dans l'oreiller. » On va aller un tout petit peu plus loin dans la lecture et on peut lire « L'instinct maternel n'existe pas. Avoir un enfant à la maison, tu connais. J'ai vécu 5 ans avec un mec, ok. » C'est tout. Voilà, un titre que j'adore, « La joie de louper des trucs et je vous en dirai pas plus. » ou encore d'un seul coup, on peut avoir sur une page comme ça marqué en grand en bas de page, il est fatigué. Il est vraiment,
Il est dynamique en tout cas.
Il est hyper dynamique, on dirait du slam. Enfin, c'est vraiment un petit bouquin à la fois très important. Dans le sens où
chiffré, documenté,
c'est vrai. Voilà, c'est une analyse à la fois quantitative, voilà,
rigoureuse,
rigoureuse, et en même temps très drôle.
C'est bientôt la fin de ce déballage de bibliothèque, Maud Le Pladec, et on se quitte avec un poème d'amour et un peu d'eau. Dernière lecture, poème d'amour. On retrouve Audrey Lorde. On commande pas plus, si ? Non ?
Non.
C'est thérapie. C'est bien un poème d'amour pour se dire au revoir.
Un court poème.
Cette fois, ce n'est plus dans le recueil Charbon, mais c'est dans La Licorne Noire.
Effectivement, qui est, je crois, le deuxième livre, enfin le livre qu'elle a écrit juste après, enfin le recueil de poèmes qu'elle a écrit juste après Charbon.
Et c'est donc dans une nouvelle traduction, celle de Gertie Dunbury.
Thérapie. À force de chercher à te voir, mes yeux se troublent. Ce n'est pas ton visage qu'ils cherchent, en doigtant tes fentes comme un enfant affamé. Même maintenant, je ne veux pas écrire un poème. Je veux te faire l'amour, faire de toi plus et moins une part extraite de moi-même.
Merci beaucoup Maud Le Pladec.
Merci
d'avoir déballé pour le Book Club votre bibliothèque. ما بلاش نتكلم غير في الماضي لو حلوة فمخي ده أكيد فاضي ما غنيش غير لو بصوت واطي ما غنيش غير لازم أقلب فراشة لو بوز لازم أسمع كلام بيموت ما فكرش غير في إني أتجوز ما فكرش غير باخد إذن على لبسي بصورة باخد ألمه من عيني نافورة أنا مجرد ته مربوطة أنا مجرد À la réalisation de cet épisode, c'était Cassandre Puel. Au son, c'était Grégory Wallon. Pour retrouver toutes les références des textes évoqués par Maud Le Pladec, les maisons d'édition, les traducteurs et les traductrices, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. C'est aussi sur cette page que vous pouvez trouver l'ensemble de nos portraits de bibliothèque. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. بقفل اطلع اللي فيا ابقى بنات كده اقول لا ابقى ما بفهمش غير لو تشرح لي ما بختارش غير لو تسمح لي ما بنفعش لو ماما مش بترتاح لي كخا عايز اكون ماليش دار غير بيك عايز اعيش معاك ما ثقش فيك تخوني تقول لي ده ما يعبكيش لو خنتك انا بقى بتفكر انت مالك فاكر نفسك في السليم الأمان مش حسابي وانت مالك عارف بتفكرني بين انت بتفكرني بي انت بتفكرني بكل مرة كنت اطلع من الحفرة وتزقيني كل ذنبي اني ما عملتش بالزبط زي ما قلتلي كل مرة خزلتني ولا مرة فهمتني انت مالك انت اطلع من الحفرة وتزقيني كل ذنبي اني ما عملتش بالظبط زي ما قلتلي كل مرة خذلتني ولا مرة فهمتني انت مالك انت مالك ترا